RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On parle du rapport Sauvé ce matin, le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'église catholique qui provoquait il y a un an un séisme en France. On va s'intéresser, on va regarder de plus près dans la seconde partie ce qui a été mis en place dans les diocèses, notamment en termes d'écoute et de prévention. On va en parler avec nos invités et bien sûr avec vos réactions et vos témoignages. Déjà, si vous êtes concerné de près ou de loin par le rapport Sauvé, est-ce que vous avez le sentiment que les suites sont suffisantes? Quelles actions ont été mises en place dans votre diocèse ou votre paroisse? Et puis, savez-vous si des cellules d'écoute sont organisées et si la prévention a été prise en compte? On vous attend au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct@rcf.fr et puis toujours dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis, 04 72 38 20 23.
Et on continuera d'agir, vous le savez, en toute fin d'émission avec ce matin Anne-Gaëlle de l'œuvre Falleret qui nous invitera à découvrir trois temps forts en lien avec la santé mentale. Trois événements, trois questions, ce sera à 10h55. Et pour nous accompagner dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Et tout d'abord, sœur Susanna Kelly, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur RCF. Merci d'être avec nous jusqu'à 11h. Vous êtes délégué de l'évêque en charge des abus sexuels dans l'église pour le diocèse de Strasbourg. Alors, moi, j'aimerais revenir un an, il y a un an, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 5 octobre 2021. Quelle a été votre réaction, sœur Susanna Kelly, il y a un an, quand vous avez appris, peut-être entendu, lu les chiffres accablants, alarmants du rapport Sauvé?
À ce point-là, j'avais déjà reçu peut-être une cinquantaine de victimes. Et du coup, ma réaction pour moi, c'était d'y avoir autant de visages, des histoires personnelles qui il me semblait comme un tsunami. Des personnes blessées et en cherche de vie.
C'était très brutal pour vous en tant que religieuse?
Oui, parce que c'est l'église à laquelle je donne ma vie, mon service. Et évidemment, il y a un sentiment de déception. Mais ni est-ce que je peux dire que c'était complètement neuf, dans le sens que j'avais vécu un tsunami en 2002 aux États-Unis, en lien avec Boston et Cardinal Law et tout ce qui s'est passé. Donc, je n'étais pas complètement naïf non plus.
Merci, sœur Susanna, d'être avec nous dans cette émission. Notre deuxième invitée, c'est vous, Véronique Frégard. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Vous êtes la responsable du service pastoral et catéchisme au diocèse du Havre. Alors, on parlera des différentes actions que vous avez pu mettre en place, notamment dans le diocèse du Havre. Il y a vraiment des méthodes, une méthodologie qui a été imaginée, inventée depuis un an. Même question pour vous, Véronique Frégard. Il y a un an, le 5 octobre 2021, quelle a été votre réaction?
C'est vrai que j'étais comme abasourdie par les chiffres, choquée et puis en même temps en colère aussi, voilà, parce que et puis j'étais aussi très marquée par les témoignages, qui était blessant, enfin qui était terrible, et puis avec cette sensation, cette volonté de dire bon voilà, on peut pas maintenant qu'on sait tout ça, même si on le savait un peu mais pas à ce point-là, il faut voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Ça a été une des premières réactions, et que la catéchèse était aussi concernée. Quand on lisait le rapport, on retrouvait plusieurs fois la catéchèse. Donc c'était, que peut-on faire? Comment agir? Et comment agir dès à présent à notre niveau?
Ça a été rapide pour vous, cette réaction de dire il faut agir, il faut se bouger?
Oui, très rapide. Ouais. On s'est retrouvés avec le vicaire général, avec le responsable de la pastorale des jeunes, avec un autre prêtre qui est vicaire épiscopal qui s'occupe des scouts. Et tout de suite, on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? On ne va pas attendre que les structures se mettent en place, que ça bouge au niveau ou du Vatican, du droit canon. Voilà, dès à présent, il y a sûrement des choses à faire. On est passé à côté de choses. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ça a été très rapide. Oui, on s'est réunis très vite. Je crois que dans la semaine qui a suivi, l'évêque nous a missionnés et puis on a commencé à travailler, quoi. Qu'on échange d'abord entre nous, parce qu'il fallait quand même pouvoir en parler. Ça, c'était important, pouvoir s'exprimer, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressentait et après, réfléchir à ce qui pouvait être fait.
Ouais. Sœur Susanna Kelly, ce temps de réaction, il a été également très rapide pour le diocèse de Strasbourg.
Mais en fait, nous avons commencé déjà en 2018, quand il y avait l'affaire Barbara Prena. En même temps, il y avait les affaires en Chili, aux États-Unis. L'Église était bien en crise. Pour moi, c'était clair avec Monseigneur Avel et nous avons commencé une commission qui a lancé un processus de formation pour tous les prêtres et les agents pastoraux qui a émané un code de bonne conduite. Et le code de bonne conduite pour nous, ça s'appelle le code de relation pastorale qui décline les mesures à prendre dans le diocèse. Et ça, c'était déjà écrit et voté en 2019 et acté en 2020.
Voilà, le diocèse de Strasbourg qui s'est rapidement mobilisé. Alors, je rappelle que vous avez la parole ce matin au 04 72 38 20 23 pour apporter vos réactions, vos témoignages. N'hésitez pas également à nous envoyer un mail à l'adresse direct@rcf.fr ou à laisser vos messages dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Dans un instant, nous rejoindra notre troisième invité, si on arrive à nous connecter avec lui, Jean-Yves Trochon, qui fait partie du diocèse de Nanterre et notamment de la paroisse de Rueil-Malmaison. On essaye de l'avoir au téléphone avec nous. Véronique Frégard, je me retourne vers vous pour le diocèse du Havre. Je l'ai dit, ça fait quasiment un an, jour pour jour, que le rapport a été remis. C'était le 5 octobre 2021. Vous avez l'impression qu'il y a eu du chemin depuis un an ?
Ah oui. Il y a eu vraiment un travail qui a été engagé, et pas seulement au niveau des responsables de service ou des personnes en responsabilité. On est allé sur le terrain, on a rencontré des personnes, on a nous publié un livret aussi qui redonne, parce qu'il n'y a pas été fait précédemment. Précédemment, il y a eu la cellule d'écoute qui avait été mise en place. Et là, on s'est dit qu'il était important de pouvoir former tous les intervenants auprès des mineurs, prendre conscience et savoir ce qu'il fallait faire. Donc, il y avait un volet prévention et un volet aussi ce qu'on a appelé un peu comment repérer, comment voir ce qui se passe et que faire quand soit on est témoin, soit on reçoit les confidences d'un jeune qu'on accompagne. Et puis des choses toutes simples. Quand on accueille des mineurs, donc il y a des précautions à prendre, il y a des choses à mettre en place, il y a des postures à avoir qu'on ne faisait pas forcément précédemment ou qu'on faisait de manière naturelle. Et puis on s'est dit, là, non, maintenant, il faut structurer, il faut mettre en place des choses. On ne peut plus continuer comme avant, on va regarder ce qui se passe. Il y a sûrement des points à améliorer. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, parce que pour beaucoup, et je pense surtout aux catéchistes auprès du primaire, elles se sentaient plus éloignées du rapport de la SIAS par rapport à ceux qui accompagnaient les jeunes. Et donc là, il y a une vraie prise de conscience qu'on avait un rôle à jouer, qu'on n'était pas neutre dans ce qui se vivait.
Sœur Susanna Kelly, est-ce que vous vous faites la même réflexion, vous, sur ce chemin parcouru depuis maintenant un an, notamment dans le diocèse de Strasbourg et plus généralement dans la société, dans l'Église, dans l'institution ?
Oui, tout à fait. Donc nous avons vu qu'il fallait deux axes. Une, c'est l'accompagnement des victimes qui viennent vers nous, et nous avons eu pas mal de victimes dans notre diocèse, malheureusement, très malheureusement. Et le deuxième axe, c'est vraiment la prévention. Donc, on pourrait aussi dire la protection des mineurs. Donc, c'est tout à fait la même réflexion qu'il faut commencer avec un temps de formation. Et ici, nous avons déjà acquis deux séries de formation. Et il y a un troisième qui va commencer bientôt.
Alors, je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Agnès nous a rejoint justement à l'antenne. Bonjour Agnès.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors voilà. Moi, j'étais sidérée par cette ampleur, par ce drame qui se passait dans l'église. Et aussi, j'ai aussi Voilà. Ce que je comprends pas, c'est bon, cette demande des évêques, ce pardon des évêques, mais en même temps, ne remettant pas du tout en cause leur rôle, leur fonction. Je pense que le rôle de l'évêque, pour moi, en tant que chrétienne, doit être changé. Ce rôle ne doit plus être seul. Il ne doit plus être seul devant l'ampleur des responsabilités où il engage l'Église. Parce que, en tant que chrétienne, moi, j'ai eu des répercussions aussi, comme tous les chrétiens, sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe dans votre Église? Comment ça se fait? Comment répondre quand on est tout simplement chrétien? Voilà.
Oui. Eh bien, merci beaucoup Agnès d'avoir été avec nous au 04 72 38 20 23. Véronique Frégard, vous voulez réagir sur cette remarque d'Agnès qui, je pense, concerne aussi beaucoup de nos auditrices et auditeurs.
Je pense déjà, l'évêque d'abord n'est pas seul toujours. Voilà, il est entouré de conseils et puis je vois sur le diocèse du Havre, il y a un accord qui a été signé avec le procureur de la République. Donc voilà, la démarche maintenant est en place. Il y a une procédure qui est en place. Donc l'évêque de toute façon agit et dès qu'il y a un signalement ou dès qu'on est informé ou qu'un laïc est informé de quelque chose. On transmet, il y a une procédure et on transmet directement au procureur de la République. Donc il y aura plus ce temps de je pense, ou de réflexion peut-être seule de la part de l'évêque. Voilà, la procédure. Il y a une procédure qui est claire maintenant, c'était pas forcément le cas auparavant, même si ça se faisait aussi. Mais voilà, et l'évêque n'est pas forcément seul non plus, quoi.
François est avec nous. Bonjour François.
Bonjour RCF.
Bonjour. On vous entend très bien. Et c'est à vous.
Bon. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, voilà, moi je suis diacre.
Oui.
Et je voudrais vous témoigner, vous parliez d'un avant et un après.
Oui.
J'ai eu la chance, enfin entre guillemets, de vivre les deux. Alors pour moi, avant, c'est 2019. À ce moment-là, j'étais diacre en Savoie. Et puis voilà, on voyait bien, parce que Lyon était tout près, bon, Prénat, tout ça. Donc on voyait bien ce qui était en train de monter. Donc, alors là, je vais parler terrain, hein, je vais pas parler diocèse et tout ce que... terrain. Donc, on s'est dit, il faut que notre paroisse, on a une paroisse, je suis un membre de la communauté du Chemin Neuf, oui. On a une paroisse qui nous est confiée à Chambéry. Et on s'est dit, il faut que notre paroisse entende, comprenne, débatte, voilà. Donc... ça a été quand même un peu délicat d'amener notre prêtre à reconnaître que oui, ça serait bien. Donc, on a monté toute une soirée avec des témoins qui sont venus. Merci Véronique Garnier qui est venue d'Orléans, mais on avait des gens tout proches qui avaient des choses très dures à dire. Et alors, comme on n'était vraiment pas sûr de nous, hein, enfin, vous voyez, c'était vraiment le tout début du début, on s'est dit, on va appeler nos frères protestants pour qu'ils soient là un peu comme modérateurs, œil extérieur. On les connaît bien, hein, les protestants de Chambéry.
Oui.
Et donc, voilà, cette soirée a eu lieu, remarquable. Alors, on était une trentaine, pas mal de jeunes, l'aumônerie qui était venue. Bon, super. Et suite à quoi, le diocèse, alors le diocèse, il est à 500 mètres, hein, la maison diocésaine, l'archevêché, tout ça, de manière très sympathique, ils ont dit, bon ben vous avez fait ça, ben nous maintenant, à la maison diocésaine, on va convoquer à nouveau un rassemblement, il faut qu'on discute tout ça. Bon, donc la réunion, disons que le terrain en Savoie, voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, je quitte la Savoie et maintenant me voilà dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Ah bah c'est bien ça, en Normandie en plus.
Exactement. Et ben voilà, alors changement de terrain. Hein. Là maintenant, j'y arrive en 2021. Et ben voilà, le rapport Sauvé, il est sorti en octobre. Pareil, alors dans la paroisse, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on se saisisse de cette affaire et qu'on en parle. Bon, paroisse confiée au vicaire épiscopal. Alors là, non. Là, il y a eu un barrage complet. L'église a cessé de faire comme ça. Non, on ne va pas remettre ça.
François, on accélère. Ça vous dérange pas parce qu'il y a du monde qui patiente.
Eh ben, je termine. Finalement, c'est nos femmes, parce que les diacres sont mariés, comme vous le savez, enfin souvent. Et donc, c'est nos femmes qui nous ont dit, mais enfin quoi, c'est votre rôle, allez au bout. Hein. Et donc, on a réussi à obtenir, finalement, avec beaucoup de difficultés, un moment. Donc, la seule chose que je voudrais dire, moi, pour finir, à mon avis, c'est que, voilà, moi, j'ai pas subi, heureusement, de violence. Je sais pas ce qui s'est passé dans le Sud-Manche, là, c'est le silence radio. Mmh. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que, vraiment, les EAP, la discussion se passe comme elle doit se passer dans une paroisse. Il y a tout un problème de gouvernance là qui est posé et j'espère qu'il évoluera. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup François pour ce témoignage au 04 72 38 20 23. Ça me permet d'accueillir notre troisième invité. Ça y est, on a réussi. Bonjour Jean-Yves Trochon.
Oui, bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Rassurez-vous, on vous entend très bien. Vous faites partie du diocèse de Nanterre et notamment de la paroisse de Rueil-en-Malmaison. J'aimerais vous faire réagir sur ce que vous avez entendu de la part de François qui nous dit qu'il y a vraiment un avant et il y a un après, notamment dans les paroisses. Est-ce que c'est le cas également pour ce que vous avez pu constater, vous, du côté de Rueil-en-Malmaison ?
Alors oui, il y a eu un avant, un après, parce que c'est vrai que ce rapport de la FIAS a véritablement été un électrochoc. Maintenant, c'est vrai que, alors à Rueil, et je pense dans pas mal d'autres paroisses, bon, on n'a pas attendu le rapport de la FIAS pour prendre la mesure effectivement du sujet, et puis pour mettre en place un certain nombre d'initiatives. Mais c'est vrai que le rapport de la FIAS a été véritablement un effet déclencheur. Alors, François parlait de gouvernance, il a raison,
oui,
c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir une vraie gouvernance. Donc nous, ce qu'on a fait, d'abord, on a une vraie impulsion de la part du père Antoine Véron, qui est le curé de notre paroisse. On a défini une méthodologie, c'est-à-dire qu'on a constitué un groupe de travail avec donc le curé, un autre prêtre et trois laïcs, dont une psychologue et le responsable des catéchismes, ou la responsable des catéchismes, en accord et en lien avec l'EAP. On a été aidé en cela aussi par des réunions et des soirées qui ont été organisées peu de temps après la sortie du rapport de la FIAS, quelques mois après. Et on a défini en fait une méthodologie avec donc sur la base de cette gouvernance. Alors, pour ne pas être trop long, et peut-être je pourrais détailler si vous le souhaitez tout à l'heure, en fait, on a décidé de faire deux choses. La première, et on l'a fait au cours du premier semestre, ça a consisté, de 2022, c'est consisté à dire, on met en place des feuilles de d'information, des lettres d'information, on en a fait cinq, pour aller au fond des choses, en particulier pour indiquer tout ce qui se fait déjà au niveau des paroisses, au niveau du diocèse et même au niveau de l'Église de France, et ce qui était déjà en place avant même la sortie du rapport de la FIAS.
Oui.
Parce que je crois que c'est très important. Il y a eu un avant, un après, certes, mais en fait, le rapport de la FIAS a été quand même effectivement la révélation de ce que beaucoup de gens, effectivement, savaient, intuitaient, pensaient savoir. Et donc ces lettres d'information, elles ont porté, alors je ne vais pas être trop long, mais sur par exemple des témoignages du père Véron sur tous les points de vigilance déjà mis en place par les prêtres dans leur activité pastorale auprès des jeunes, par exemple lors des camps scouts, dans les cas de l'aumônerie, pour prendre que ces deux exemples. On a eu un éditorial d'économes paroissiaux sur les travaux d'aménagement des locaux pour rendre le plus transparent possible toute situation de contact entre des adultes et des enfants, notamment à l'occasion des rencontres avec des prêtres mais aussi des catéchistes. Donc ça a conduit notamment à la pose d'oculus dans des pièces fermées. Nous avons aussi un éditorial sur la période en charge des activités du catéchisme qui explique notamment tout ce qu'on faisait en matière de formation des catéchistes.
Et on va avoir le temps bien sûr de préciser tout cela, Jean-Yves Trochon. Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour participer à cette émission, tout comme Agnès et François. On accueillera Louise d'ailleurs dans quelques minutes qui va venir à l'antenne. Vous pouvez également nous laisser vos témoignages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Un peu de musique et on se retrouve juste après, toujours en direct et jusqu'à 11h sur RCF après Jean-Jacques Goldman.
Sur une arme litre.
La spa de Jean-Jacques Goldman sur RCF. Nos mains.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et nos trois invités dans cette émission, sœur Susanna Kelly, vous êtes déléguée de l'évêque en charge des abus sexuels dans l'église pour le diocèse de Strasbourg. Jean-Yves Trochon, vous faites partie du diocèse de Nanterre et de la paroisse de Rueil-Malmaison. Véronique Fréguer est également avec nous, responsable du service pastoral et catéchisme au diocèse du Havre. Louise nous a rejoint. Bonjour Louise.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ben j'avais une question pour la personne tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était la personne du diocèse de Strasbourg ou du diocèse, je ne sais plus exactement. En tout cas, qui disait qu'elle s'occupait de faire du repérage de victimes et de la formation à l'accompagnement des victimes au sein du diocèse.
Oui.
Je crois qu'il était mention de brochures qui sont écrites pour former les personnes de l'Église. Assez pratique.
Oui, bah écoutez, je crois que c'était pour vous, Véronique Frégard. Hein, je crois que ça concerne le diocèse du Havre.
Je me demandais en fait quelle formation ont reçu les personnes qui écrivent ces brochures, parce que la prise en charge des victimes d'abus sexuels et le repérage des victimes ou des agresseurs, c'est quelque chose qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire et qui ne s'invente pas. Et je me demandais quelle formation ont reçu les personnes qui vont donner ces formations. Parce que pour l'instant, à mon avis, l'Église catholique, si elle peut donner une formation, c'est comment couvrir des abus sexuels et comment enterrer des affaires d'abus sexuels. Parce que c'est la seule chose dans laquelle elle s'est montrée très organisée.
On va en parler avec nos invités. Merci Louise pour ce témoignage au 04 72 38 20 23. Véronique Frégard.
Il y a deux choses. Oui. Le livret n'est pas là pour aider les personnes à accompagner les victimes. Il est vraiment là pour aider les acteurs en pastoral pas accompagner, mais à prendre des précautions, à être vigilant sur ce qui se vit. Et en revanche, on a, avant d'écrire ce livret, au moment où on l'écrivait, avec un autre prêtre qui participait au groupe de travail, on a suivi une formation de deux jours par une association qui s'appelle Reprends Vie, qui est une association qui qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles. Et donc c'est une association qui est animée par des thérapeutes, des psychologues, des avocats, parce que c'est pareil, on se sentait pas non plus légitime pour pouvoir en parler, parce que c'est pas notre métier, c'est pas notre formation de base. Et donc cette formation de 48 heures nous a vraiment aidé aussi pour comprendre ce qu'était une agression sexuelle, ce que vivaient les victimes, et surtout nous a aussi délivré ce message qu'il est possible de se reconstruire en mettant en place des thérapies, mais pour ça il faut créer les conditions pour que les personnes s'expriment. Et donc nous, en fait, à notre niveau, c'est simplement être là, pouvoir être à l'écoute, mais on n'est pas du tout thérapeute, on n'est pas là pour accompagner, mais c'est pour pouvoir après orienter les personnes vers les structures qui existent déjà, ne serait-ce que cette affiche avec le numéro 119 pour l'aide à l'enfance maltraitée, voilà. Mais nous, c'est vrai qu'on a eu besoin de se former et on va continuer à former des personnes avec cette association.
Sœur Susanna Kelly, qu'en est-il dans le diocèse de Strasbourg?
Oui, je trouve que c'est très important de travailler avec les intervenants à l'extérieur de l'Église, justement. Et ici, les formations étaient aussi faites avec Stop aux violences sexuelles, qui est vraiment formé sur le sujet spécifiquement. Et aussi, nous avons énormément travaillé avec France Victime. Et du coup, c'est vrai que pour la crédibilité de nos formations et nos travaux ensemble, il faut absolument utiliser les intervenants de l'extérieur.
Oui, Jean-Yves Trouchon, vous confirmez, ne pas rester seul, savoir bien s'entourer de personnes qui sont peut-être professionnelles ou en tout cas qui connaissent bien la question.
Oui, alors effectivement, la cellule qu'on a constituée au niveau du diocèse, enfin dans le diocèse de Nanterre, donc au niveau des paroisses de Royaume-Malmaison, elle est constituée de gens qui ont été choisis aussi pour leurs compétences à la fois juridiques et puis psychologiques. On a une personne effectivement qui est psychologue, qui est elle-même en fait membre de la cellule d'écoute qui a été mise en place dans le diocèse de Nanterre en 2016. Et donc les personnes qui contactent cette cellule sont accompagnés, sont reçus et accompagnés par des gens qui ont effectivement, eux, reçu une véritable formation d'accompagnement aux victimes, et en particulier des psychologues. Mais c'est le rôle de la cellule du diocèse, et c'est pas au niveau des paroisses de Rueil. La paroisse de Rueil, nous, on est là effectivement pour faire en sorte que les éventuelles victimes puissent effectivement, au travers de cette cellule d'écoute, trouver des personnes qui sont véritablement formées pour les accompagner.
Cellule d'écoute, oui, c'est une chose pour les victimes. Et la prévention, alors, est-ce qu'on peut en parler, Jean-Yves Trouchon?
Oui, la prévention, finalement, tout notre travail, c'est un travail de prévention et de détection. Prévention au travers de ces lettres d'information, qui sont des lettres d'information quand même très très approfondies. On a vraiment évoqué, donc outre les thèmes que j'ai évoqués, on a aussi eu un éditorial sur la formation. La formation des séminaristes, on a eu un éditorial sur effectivement tous les points de vigilance que doivent observer tous les laïcs qui sont en contact dans toutes les activités des paroisses avec des jeunes. Donc ça, c'est vraiment la prévention. Et puis on a la prochaine étape, c'est vraiment une étape pour créer un plan de vigilance, pour recenser par activité paroissiale toutes les situations, je dirais, à risque au sein de chaque paroisse, c'est-à-dire les situations où effectivement des adultes peuvent se retrouver, et je ne parle pas uniquement des prêtres, mais tous les laïcs en fait qui sont en mission et qui sont au contact des jeunes dans la paroisse, de façon à ce que on puisse savoir, à partir de ces situations à risque, quelles sont les mesures de risque, de maîtrise du risque qui existent déjà en place. Qu'est-ce qu'on fait déjà concrètement? Qu'est-ce qui existe déjà concrètement dans le cadre de l'aumônerie, dans le cadre des confessions, dans le cadre du scoutisme, dans le cadre du catéchisme, les pèlerinages, etc., etc. Et ensuite, les différentes mesures complémentaires que nous devrions instituer au niveau de nos paroisses, de façon à ce que ces initiatives soient des initiatives qui s'inscrivent dans la durée. C'est-à-dire que moi, quand j'entends dire, et c'est très très bien, il faut commencer par ça, on a une réunion d'information, puis une autre réunion d'information avec 20 personnes, 50 personnes, etc., c'est très bien.
Mais c'est pas assez pour vous?
Non, c'est un point de départ. Enfin, moi, il me semble, hein, attention, parce que bon, toutes les paroisses ne sont pas en mesure de pouvoir mettre en place une démarche de ce type, mais si on a un plan de prévention qui dit oui, voilà les zones de risque, voilà ce qui existe déjà, voilà ce qu'on peut faire de plus, et qu'on suit dans la durée ce plan de, alors qu'on peut l'appeler une terminologie, il y a différents types de terminologie, mais ce plan de prévention, il doit permettre dans la durée de pouvoir vérifier, il doit être actualisé, j'allais dire quasiment tous les ans, pour s'assurer qu'effectivement on a bien les points de vigilance, les mesures de vigilance en place pour, dans toutes les activités de la paroisse. Et pas seulement un ou deux événements, comme enfin événements réunions one shot, comme on dirait, mais qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans la durée. Voilà, c'est pour ça que moi je crois beaucoup qu'il est très important d'implanter un dispositif de prévention du risque, et ça passe énormément effectivement par la formation, l'information, et puis des mesures complémentaires qui peuvent être très concrètement faire passer alors on appelle ça un e-learning, enfin il y a d'autres terminologies.
Sur Internet, par exemple.
Une bonne pratique, ça peut être, si vous êtes demain à l'aumônerie ou que vous accompagnez les jeunes au FRAT, eh bien, on vous demande de faire un test, une formation en ligne, relativement simple, mais quand même suffisamment complète, de façon à ce que on puisse s'assurer que les personnes qui accompagnent les jeunes et bien conscience et connaissance des risques auxquels des situations qui nécessitent une vigilance.
Et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour témoigner et réagir. On se fait une toute petite pause, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et oui, toujours avec nos trois invités, Sœur Suzanne Kelly du diocèse de Strasbourg, Jean-Yves Trochon du diocèse de Nanterre et Véronique Frégard du diocèse du Havre. On parlait de ces réunions il y a quelques instants, Véronique Frégard avec Jean-Yves Trochon, qui nous disait des réunions c'est bien, des réunions d'information, mais il faut aller plus loin. Ça, c'est une conviction pour vous également dans le diocèse du Havre?
Oui, ça doit. Il faut vraiment se dire comme... Quelqu'un reçoit une lettre de mission quand il démarre une mission, et ben dans le cadre de cette lettre de mission, la personne doit aussi être formée et informée sur la manière d'accompagner les jeunes, d'accompagner les mineurs. Voilà, ça va pas de soi, et c'est important de continuer. C'est une des conditions aussi, et au-delà de l'aspect matériel et pratique, du style avoir des salles suffisamment ouvertes pour être visibles, d'être en binôme, il y a aussi une manière, je pense aussi une manière d'être avec, d'accompagner les jeunes, et une manière aussi d'être catéchiste qui doit vraiment prendre en compte le respect de la personne, et que ça va pas, c'est la posture du catéchiste est aussi importante. Au-delà de l'aspect pratique, c'est aussi la manière dont on se situe par rapport aux jeunes. Voilà, on n'est pas l'adulte omniscient et qui est là pour délivrer des vérités. On est vraiment dans un échange, dans un dialogue. On doit éveiller à la conscience des jeunes, et je pense que c'est un volet qui est essentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais voilà, qui est vraiment accentué par le rapport de la SIAZ.
Ouais. Sœur Suzanne Kelly, quelle est la place des laïcs, le rôle des laïcs dans cette affaire? Est-ce que ils ont une place très très importante pour à la fois organiser, que ce soit les réunions ou toutes les actions de prévention qui sont organisées?
Oui, je pense que c'est important de parler de la place des laïcs, mais aussi la place des victimes, qui sont souvent aussi des laïcs. Dans la situation de la place des laïcs en général, je dirais que c'est très important d'intégrer les laïcs dans toutes nos démarches. Notamment ici, nous avons une commission qui est faite exclusivement des laïcs. Aussi, on a lancé un travail au Grand Séminaire d'intégrer plus de laïcs, justement, dans le conseil. Et il y a d'autres éléments où nous avons aussi mis en place le binôme. Donc, ça veut dire d'institutionnaliser qu'il n'y a jamais un adulte seul avec un mineur.
Ouais. Et ça fonctionne alors? Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce qu'il y a vraiment des retours qui sont positifs sur toutes ces actions?
Il faut dire qu'au départ, il y avait pas mal de résistance. Ouais. Maintenant, il y a des retours très positifs. En fait, ça aide beaucoup d'encadrer les jeunes, d'y avoir deux personnes qui sont là. Mais ce n'est pas évident pour les cours d'orgue, par exemple, d'y avoir toujours un tiers présent, parce que ça veut dire qu'un parent ou quelqu'un doit rester dans la pièce. Donc ce n'est pas toujours évident, mais on a trouvé que largement, c'est positif. Surtout, l'essentiel, c'est de protéger que cela ne se reproduise pas. Donc si ça nous coûte un peu, peu importe, parce que la réalité, c'est beaucoup plus importante d'éviter que cela se reproduise.
Le quoi qu'il en coûte, hein, qui a une part très importante ici. Jean-Yves Trochon, vous êtes d'accord avec ce que dit Sœur Susanna Kelly ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. La place des laïcs, alors c'est tout type de laïcs. Je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir des femmes, bien sûr, des hommes. Nous, on a un groupe de pèlerins, on fait des pèlerinages de pères de famille, par exemple, et on est plusieurs, effectivement, à avoir pris conscience de l'importance de la place des hommes aussi. Des jeunes, hein, je pense que c'est très important, et nous, dans les travaux qu'on va mener au second semestre, on souhaite vraiment impliquer des jeunes aussi dans l'identification des mesures complémentaires qu'on pourrait mettre en place, justement, pour assurer ce plan de vigilance. Hein. L'implication des prêtres, nous on a la chance d'avoir effectivement des prêtres qui vraiment ont donné ont souhaité véritablement appuyer cette initiative, sont très impliqués dans cette initiative, parce qu'il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est le fait que bon, on sait que à peu près 3%, si on en croit les chiffres de la CIAS, de clercs ont été impliqués dans ces actes au cours des 50 dernières années. Bon, ça veut dire que 97% ne l'ont pas été. 97% ont pu parfois, enfin un certain nombre, et moi j'ai des témoignages très concrets, vous en avez peut-être aussi, de prêtres qui ont été victimes de calomnies. Et ça aussi, c'est très important, justement, que cette transparence permettent aussi aux prêtres d'être à l'aise dans le cadre de leurs activités et qu'on ne puisse pas demain effectivement prêter le flanc à la rumeur.
Mmh. Ouais, Véronique Frigard, comment on s'occupe également de cette question des prêtres qui finalement sont victimes aussi de mensonges ou en tout cas de clichés.
De suspicions. Ouais. C'est vrai qu'on a eu, c'est vrai que les prêtres autour, dans le diocèse du Havre, ont été très, très touchés, très marqués aussi et très, très mal. Hein. Ils ont très mal vécu ce qui s'était dit parce qu'ils étaient véritablement blessés aussi. Après, nous, on travaille énormément entre laïcs, prêtres et dans notre groupe de travail, ça se passe comme ça et souvent au niveau du diocèse aussi. Donc, c'est vrai qu'on se positionne pas forcément en tant que laïc ou prêtre.
Ce qui est important,
c'est on travaille beaucoup ensemble. C'est la formation et l'information aussi auprès, je pense aux catéchistes, aux animateurs, de bien dire aussi quand on leur dit, ça sera important de travailler en binôme, faites attention, évitez de ramener les enfants chez vous tout seul en voiture. On n'est pas dans la suspicion ou la méfiance. Voilà, et c'est important de pouvoir discuter pour leur dire, mais c'est pas ça du tout, mais c'est maintenant cette manière de faire. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand on est en lien avec des mineurs, il y a des précautions à prendre. Il faut agir de cette manière-là, et ça protège aussi l'enfant parce que ça veut dire qu'il monte pas en voiture avec n'importe quel adulte, même si c'est son catéchiste. Mais ça veut dire qu'avec n'importe quel adulte, il ne monte pas seul en voiture. Enfin voilà. Mais il est important d'échanger, que c'est pas juste un document qu'on remet une formation d'une heure et puis on dit ça y est, c'est bon, vous avez vu, mais c'est le dialogue aussi avec chacun, et on n'est vraiment pas dans la méfiance ou dans la suspicion systématique.
J'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes, Véronique Frigard, sur ce qu'a dit Jean-Luc Brunin, l'évêque du Havre. Le silence, l'indifférence, une déférence mal ajustée ne doivent plus supplanter le devoir d'interpeller et d'alerter quand on a repéré un problème. Ça, c'est quelque chose qui, finalement, vous accompagne tous les jours, cette phrase, ou en tout cas ce non-silence qu'il ne faut plus avoir. Qu'il faut avoir.
Oui, mais c'est devenu la règle et la manière de faire. C'est vrai que c'est pas évident. On, ayant beaucoup travaillé au sein de ce groupe de travail et ayant suivi cette formation-là auprès de l'association qui vient en aide aux victimes, c'est une évidence. C'est vrai qu'au cours des rencontres qu'on a eues avec les différents animateurs, certains nous ont dit « Ouais, mais vous... » On a parlé beaucoup de la parole de l'enfant et nous, ce qui est ressorti de nos formations, c'est de se dire, la première chose de dire à un enfant qui se confie à nous, c'est « Je te crois ». Voilà. Après, il y a les services sociaux, il y a la justice qui enquêtera, mais c'est pas notre rôle. Et c'est vrai que pour certains, ça a été compliqué de dire oui, mais vous rendez compte, si c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est impliqué dans la paroisse et qui est mis en cause, et on s'est dit, mais c'est pas notre problème. Ouais. Voilà, un enfant ou un jeune s'est confié à vous, et ben voilà, on transmet, on signale, mais ça peut pas rester, ça peut pas se régler comme ça au sein de la paroisse ou au sein du groupe de catéchistes, c'est pas possible, quoi.
Sœur Suzanne Kelly.
Oui, nous sommes en train maintenant de lancer notre troisième formation qui est justement avec les bénévoles, donc largement les catéchistes, mais d'autres qui sont régulièrement en contact avec les mineurs. Et on voulait les former aux signes d'alerte et aussi comment faire un signalement. Donc c'est exactement cette même question de comment réagir si jamais je suis en train de recevoir un témoignage. L'autre chose que nous avons lancé, c'est un module de 3 heures d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et là, nous parlons directement de la question des abus sexuels, les éléments législatifs, comment distinguer la question de consentement pour les jeunes, comment faire les limites, comment sentir un mal à l'aise et comment réagir à cela. Et du coup, on donne aussi les numéros de l'enfance en danger, le 119, etc., à toutes les jeunes. Et pour moi, c'est une manière pour l'Église d'être phare sur la question et de prévenir pas juste les abus sexuels dans l'Église, mais les abus sexuels dans toute la société. Parce que c'est justement cela, je dirais, notre rôle.
Et on va continuer d'en parler jusqu'à 11h dans cette émission. Vous avez toujours la parole au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages, vos réactions. Dites-nous si vous êtes concerné de près ou de loin par ce rapport Sauvé. Est-ce que vous avez le sentiment que les suites sont suffisantes? Et puis, quelles actions ont été mises en place dans votre diocèse ou votre paroisse? Est-ce qu'il y a, par exemple, une cellule d'écoute ou vraiment des actions de prévention? On vous attend au 04 72 38 20 23 et par mail également à l'adresse direct@rcf.fr. On écoute Natacha Saint-Pierre.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image, perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, Jeanne, si la vie est un rêve, que l'amour relève tout contre vous. Jeanne, au bois dormant, vous prendriez votre main, nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme que j'ai. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie, Jeanne.
Voilà, Natacha Saint-Pierre et cette chanson Jeanne, c'était Laurent Voulzy, bien évidemment, chanson sortie en 2011. On continue cette émission, il nous reste quelques minutes avant la fin. Nous sommes toujours avec vous, Sœur Susanna Kelly du diocèse de Strasbourg, Jean-Yves Trochon du diocèse de Nanterre et de la paroisse de Rueil-en-Malmaison, et puis Véronique Frégard du diocèse du Havre. Véronique, vous nous avez parlé tout à l'heure de ce document, hein, ce PDF qui est disponible sur le site internet du diocèse du Havre, qui est disponible avec de très nombreuses informations. C'est à destination de qui ça ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le distribuer peut-être dans certaines paroisses, ou alors c'est vraiment réservé à Internet ?
Non, ce document a été publié sur Internet, c'est pour permettre à tous de pouvoir le consulter. Mais c'est vraiment, l'idée c'était qu'il soit disponible pour tous les animateurs, toutes les personnes en lien avec des mineurs au sein de l'Église, voilà. Que ce soit des catéchistes, des animateurs, des personnes qui s'occupent des servants d'autel, des prêtres, les diacres, enfin voilà, le plus largement possible. Par contre, c'est vrai qu'on ne distribue pas comme ça à tout le monde, on tient à ce qu'il y ait une formation au moment où on remet ce document. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi, comme vous dites ça, on n'est pas des professionnels de la petite enfance, si, certains d'entre nous, mais pas la majorité, donc de voir ne serait-ce qu'au point de vue juridique quels étaient les définitions d'une agression sexuelle, d'un viol, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a, voilà, moi que j'ai découvertes. L'importance aussi d'Internet, et on se dit que là, il y a tout un travail de prévention aussi auprès des jeunes avec des nouveaux délits, en fait, qui n'existaient pas. Et c'est vrai que ça nous a un peu aussi ouvert les yeux. Et puis, un rappel à la loi aussi, ce qu'on est censé faire et ce qu'on doit faire en tant que citoyen, quoi. Ouais.
Avec des annexes, hein, des documents.
Avec des annexes.
Ça, c'est important parce que, par exemple, je prends un exemple, hein, note d'information préoccupante, ça c'est vraiment à remplir s'il y a quelque chose d'alertant.
Alors après, toujours en lien avec, c'est pareil, on ne fait pas seul, c'est pas le catéchiste seul dans son coin qui va signaler. Et puis, il y a toujours ce numéro aussi, ça on insistait beaucoup sur le 119, qui vient en aide aussi, pas seulement aux victimes, mais qui vient en aide aussi aux personnes qui sont confrontées à ce type de signalement. Et puis, on a aussi mis en place ce qu'on a appelé une convention d'entente, d'entente réciproque, une espèce de contrat entre les personnes en mission et la paroisse, parce qu'on trouvait que c'était important. Qui rappelait aussi la loi, un modèle de lettre au procureur aussi, parce que ça peut arriver, mais parce que souvent on est démunis, on ne sait pas comment faire, même si on ne sert pas directement tout seul de ces outils, on sait qu'on les a à disposition, et ça peut rassurer
Jean-Yves
les animateurs, parce que c'est une grosse responsabilité quand même, du coup, quand on se retrouve animateur ou catéchiste auprès de mineurs, quoi.
Oui. Jean-Yves Trochon, vous avez des documents comme ça aussi mis à disposition dans le diocèse de Nanterre ?
Oui, absolument. Au niveau du diocèse, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un protocole parquet qui a été signé entre l'évêque et le procureur de Nanterre. Et puis, effectivement, ce qui est très important, et ça, on l'a pas encore fait au niveau de notre paroisse à nous, et probablement on va le faire, c'est l'objet de la deuxième, du travail du second semestre, c'est de déterminer effectivement la manière de gérer les alertes, de respecter la stricte confidentialité, parce qu'il est aussi très important, bien sûr, de protéger les victimes, c'est évidemment la chose la plus importante, mais aussi de protéger les personnes éventuellement mises en cause, surtout éventuellement lorsque ce serait de manière infondée. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc la gestion des alertes, c'est pas un sujet simple. C'est pour ça que c'est très important que nous, on inscrit notre initiative, évidemment, dans le cadre des mesures qui sont mises en place au niveau du diocèse. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que j'abonde complètement dans le sens de ce que disait Sœur Susanna. Ce qu'on fait aujourd'hui, enfin j'espère en tout cas, enfin je le souhaite de tout mon cœur, c'est vraiment une action qui aussi s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les abus au sein de la société tout entière, puisqu'on sait très bien que les violences sexuelles, les agressions sexuelles sont aussi en fait dans le cadre intrafamilial, dans le monde du sport, dans l'éducation, etc. Et ça, c'est vraiment fondamental, je crois, qu'on puisse d'une certaine manière capitaliser capitaliser sur tout ce qui aura été fait grâce au rapport de la CIAS, finalement, pour aussi, d'une certaine manière, contribuer au bien commun.
Avec un mot d'ordre également, la parole est libérée, elle doit continuer d'être libérée, sœur Susanna Kelly.
Oui, nous avons travaillé avec France Victime pour créer une ligne, on dit « hotline » en anglais, que toute victime d'Alsace pourrait appeler pour avoir un accompagnement psychologique et judiciaire. Mmh. Et pour nous, c'est important d'y avoir cette ligne neutre, parce que c'est une chose pour une victime de contacter l'Église qui représente en quelque manière son agresseur. Il nous semblait important qu'une victime puisse sentir qu'il y avait une structure neutre qui pourrait recevoir la parole.
Oui. Véronique Fréga, oui. C'est la même chose pour vous ?
Oui, oui. Et puis nous, au cours de nos rencontres aussi, ce qui a été marquant, c'est que des animateurs aussi se sont confiés à nous, des accompagnateurs ont pu dire moi aussi j'ai été victime, alors pas forcément dans le cadre de l'Église, mais ils ont pu s'exprimer en se rendant compte qu'il faut vraiment, plus on en parlera, plus des gens pourront parler, pourront s'exprimer et plus ils pourront être orientés pour suivre des thérapies et pour réussir à se, au moins de démarrer une reconstruction. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui doit vraiment pas être tabou parce qu'on vient je me rendais pas compte à ce point-là, mais beaucoup de personnes nous ont parlé après coup, maintenant, voilà. T'as été formé, tu peux me dire, comment, et c'est vraiment important. Et plus on sera formé aussi dans l'Église, plus on sera utile. C'est pour toute la société, effectivement.
Un an après, vous avez autant de demandes, vous avez autant de témoignages.
Là, il faut qu'on reprenne le travail vraiment. Après, on va reprendre les réunions, on va reprendre notre bâton de pèlerin aussi pour eux. Oui, ça va venir, mais ça prend du temps. Enfin, je veux dire, des personnes qui sont confiées, c'est parce qu'elles nous connaissaient déjà. C'est quelque chose qui prendra du temps.
On arrive presque à la fin de cette émission. Alors, je dis bien presque puisqu'on va retrouver notre rendez-vous en toute fin d'émission pour vous donner quelques clés, des conseils autour d'un sujet bien différent puisqu'on va tout de suite parler de santé mentale avec notre chroniqueuse. Ah oui, folie ordinaire, agir pour notre santé mentale, c'est notre rendez-vous avec vous, Anne-Gaëlle Guillol. Bonjour.
Bonjour, je vous invite aujourd'hui à découvrir trois temps forts en lien avec la santé mentale, trois événements, trois questions, Melchior.
Et on va commencer par la Journée nationale des aidants. Ça aura lieu le 6 octobre, un événement national qui doit être mieux connu.
Oui, c'est la 13e édition et vous avez raison Melchior, il faut en parler davantage. C'est un Français sur six qui accompagne un proche en situation de dépendance liée à l'âge, la maladie ou le handicap. Le message du collectif Je t'aide est très clair, pas sans les 11 millions d'aidants. Un appel à plus de reconnaissance dans les politiques publiques, de prise en compte de leurs besoins et de ressources adaptées sur notre territoire. L'aide apportée par les aidants est régulière, sinon quotidienne. En leur proposant des temps de répit, d'entraide, de formation, on les aide à préserver leur santé, leur énergie et leur morale, cet état conditionnant en grande partie la relation avec la personne qu'ils aident et leur bien-être mutuel.
On reparlera très prochainement de ce rôle d'aidant, hein. Comptez sur nous. On passe à la première édition de Pop and Psy, un festival qui est dédié à la santé mentale et qui se déroulera à Paris du 7 au 9 octobre.
Oui, c'est tout nouveau. Ce festival puise dans les œuvres et les personnages de la culture pop pour animer des échanges avec le grand public et déconstruire les idées reçues. Ça s'annonce décalé, percutant et ça va faire mouche, en particulier chez les jeunes. Et comme vous le savez, il est essentiel de les sensibiliser car la plupart des troubles psychiques commencent avant 25 ans. Nous sommes tous invités à venir assister aux concerts, spectacles et tables rondes. Des repères culturels qui font évoluer les mentalités y seront décryptés. Je pense au film Happiness Therapy ou encore la série En Thérapie qui rend les troubles psychiques plus familiers. On discutera aussi des incontournables icônes actuelles, Britney Spears ou encore Stromae, qui parlent ouvertement de leurs problèmes de santé mentale. Ils montrent que l'on peut vivre avec un trouble psychique et que l'on peut réaliser ses rêves. Ces messages d'espoir ont un impact énorme pour les personnes qui ont des troubles psychiques et leurs familles.
Il nous reste très peu de temps, Anne-Gaëlle, pour parler des 33e semaines d'information en santé mentale. Et ce sera du 10 au 23 octobre.
Oui, Melchior, mais je vais grappiller quelques secondes pour ces journées historiques de mobilisation. Le programme des événements en France est à retrouver sur semainesantémentale.fr. Le thème cette année, l'environnement et son impact sur la santé mentale. Nos logements, nos régions, notre pays et la planète, tous ces lieux et espaces contribuent à préserver notre santé mentale ou à en bouleverser l'équilibre. L'éco-anxiété, Melchior, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose et ça, on en a déjà parlé sur RCF et on va vraiment en reparler également. RCF qui se mobilise d'ailleurs pour ces semaines de sensibilisation avec un reportage à cette occasion. Ce sera à suivre dans les prochaines semaines. On se retrouve lundi, en tout cas prochain, pour échanger parce que parler de santé mentale, ça n'a rien de fou. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle Guillaume. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Alors, on l'a dit, Sœur Susanna Kelly, tout à l'heure, c'était important pour tous les diocèses de s'entourer de professionnels, que ce soit des psychologues, des psychiatres, et aussi au niveau de la justice. Comment vous faites, Sœur Susanna Kelly, quand il s'agit d'aller un peu plus loin?
Il y a deux éléments pour nous. Premièrement, nous avons déjà signé une convention avec les quatre procureurs qui nous oblige de faire un signalement dans un bref délai pour chaque victime que nous recevons. Mais aussi, nous avons déjà fait que nous vérifions le casier judiciaire pour tout agent pastoral dans l'Église. Et maintenant, nous allons vers les bénévoles pour faire justement cette formation, mais aussi de les faire signer une charte qui les oblige à le signalement et aussi de faire la vérification de leur casier judiciaire. Cela se fait par toutes les structures éducatives en France et c'est essentiel et c'est normal que l'Église s'inscrit complètement dans cette démarche.
Eh bien voilà, c'est sur ces mots qu'on va pouvoir terminer cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Je pense donc j'agis, Sœur Susanna Kelly du diocèse de Strasbourg, Jean-Yves Trochon du diocèse de Nanterre et notamment de la paroisse de Rueil et de Malmaison. Et puis merci à vous également, Véronique Frégard du service pastoral et catéchisme au diocèse du Havre. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à Pierre-Henri, Pascal, Catherine et Jeanne. On va se retrouver demain, bien sûr, de 9h à 10h exceptionnellement dans Je pense donc j'agis. On parlera de François d'Assise, le saint patron des journalistes. Ce sera demain avec Anne Kerléo, suivie à 10h de l'émission Visage, présentée par Thierry Lyonnais. On vous en dit plus, bien sûr, demain de 9h à 11h. Passez toutes et tous une très belle journée avec RCF. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'info locale.